26 octobre au 6 novembre 2010, le Théâtre de l'Anche programme La Conférence, une pièce incarnée par Renaud-Marie Leblanc, mise en scène avec la complicité de Vincent Francky, sur un texte de Christophe Pellet.
Ce fut une erreur fatale d'accepter de donner cette conférence dans une entreprise culturelle de l'État français. Je ne l'avais pas fait depuis des années, depuis mon départ, ma fuite pour Berlin. Et maintenant je suis de retour en France, je cours de théâtre en théâtre comme un poulet sans tête, et c'était à prévoir, je fraye de nouveau avec cette société théâtrale française. En toute logique, cette attitude décervelée, courir de théâtre en théâtre, me jette au devant d'une écervelée, la société théâtrale française. Je m'étais pourtant fait la promesse de ne plus jamais avoir commerce avec elle.
La conférence, une pièce réflexive où le théâtre interroge le théâtre et la société. Le théâtre, ou plutôt l'institution culturelle qui est devenue le théâtre d'ailleurs. Renaud-Marie, tu y incarnes Thomas Blaguernon, homme de théâtre en rupture avec cette institution, mais en même temps incapable de s'en détacher, une sorte d'addiction peut-être. Sans vouloir forcer la comparaison, tu as toi-même décidé, il y a quelques années, de rompre avec le travail d'interprète et de te consacrer exclusivement à la mise en scène. Voilà qu'avec cette conférence, tu repiques au truc. Alors, jouer la comédie, c'est une drogue dure, Renaud-Marie ?
En fait, oui, je me rends compte. Il y a une semaine, ça fait 16 ans que je n'étais pas remonté sur un plateau, et c'est vraiment le texte de Christophe et ce qu'il raconte personnellement que j'ai eu envie de porter. J'ai plus du tout l'habitude d'avoir des gens en face de moi, qu'une salle réagisse. Et en fait, il y a une forme de... C'est plutôt agréable. Ça serait mentir que dire que je ne prends pas du plaisir, voilà, pour le faire court.
La conférence, un monologue, une diatribe contre une culture déliquescente et ce qu'elle implique de reniement, de mépris et par là même d'amertume. Christophe Pellet, dans cette pièce, même si l'humour est féroce, les personnages échappent complètement à la caricature. Ainsi, Thomas Blaguernon, l'imprécateur, c'est pas du tout ni un Don Quichotte, ni un va-t-en-guerre, c'est un homme blessé en fait.
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aime énormément Thomas Bernhard. C'est un des écrivains qui m'ont même façonné ma pensée. Et donc, c'est aussi un hommage à Thomas Bernhard. Alors, donc, du coup, ça évite peut-être ce côté revanchard que l'on pourrait trouver à ce texte.
Un personnage blessé, un personnage qui a souffert, pas le seul personnage de cette pièce. D'autres ont encore plus souffert de cette institution. Vous pensez que le théâtre est au fond une sorte d'institution meurtrière aujourd'hui ?
Non. En fait, je parle du théâtre parce que c'est un endroit que je connais bien. Donc je suis parti de ce que je connaissais, mais c'est pas forcément le sujet de ce monologue, le théâtre. Je crois que le sujet, c'est l'époque dans laquelle on vit, c'est plus global en fait. Le texte décolle vers quelque chose d'autre qui, moi, me tient à cœur, qui est quelque chose de l'ordre de l'utopie, de l'ordre du politique, même de l'ordre du combat, mais qui dépasse le théâtre.
Est-ce qu'alors l'idée, c'est que la micro-société du théâtre est au fond le reflet de la macro-société ou de la société tout simplement dans laquelle on est, où on vit ?
Bien sûr, et je dirais même plus, les rapports humains changent. Malheureusement, c'est terrible ce que je dis là, lorsque l'on a comme gouvernement des gens qui ont des attitudes, certaines attitudes, ça se retrouve dans les rapports intimes. Ça, même si c'est inconscient, le pouvoir politique peut contaminer les esprits et l'intimité. Ça, j'en suis persuadé, et ce texte-là parle de ça. Avant de parler du théâtre, ça parle de ça.
Mais on revient sur le territoire français après une longue période. On se remet à peine de cet esprit français qui nous a empoisonné l'existence depuis notre naissance. Et à peine posé le pied sur le territoire français, on a aussitôt affaire avec l'État français. D'abord, on ne se rend compte de rien, c'est une domination sournoise. Puis peu à peu, l'État français s'impose à nous et partant l'esprit français. On part en guerre contre cet État français empoissé d'esprit français qui nous annihile, détruit toute élévation, prend aux pauvres pour donner aux riches, bâillonne les êtres sensés pour promouvoir les imbéciles. On part en guerre contre cet État et cet esprit français et sur la lancée, dans le fol instinct de la révolte, on se précipite dans les théâtres. Voilà des lieux où souffle encore l'esprit, se dit-on. Des lieux où il nous est permis de réfléchir sur notre condition. Voilà des lieux, les théâtres, où l'on part en guerre contre la bêtise et la dangerosité de l'État français, se dit-on encore. Éloigné de la France, j'avais simplement oublié depuis mon départ, ma fuite pour Berlin, que ces théâtres ne sont somme toute que des entreprises culturelles du territoire français, affiliées à l'État français et empoissées d'esprit français.
Une complexité, une épaisseur des personnages et notamment du personnage que tu travailles dans cette pièce, Renaud Marie. Un personnage auquel tu donnes volontiers un côté un peu vieille France, je trouve, un peu réac, un peu anard de droite, enfin, avec beaucoup d'humour et de malice aussi. Est-ce que c'est une manière de rentrer dedans un peu de cette institution théâtrale avec sa bien-pensance de gauche ?
Bah oui, un peu de ça, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que le silence assourdissant des gens de gauche sur la culture nous fait plus de mal que les attaques frontales de la droite, voilà, pour le dire clair. Finalement, les attaques frontales de la droite, pour le faire aussi très raccourci, on en a l'habitude. Le silence assourdissant de la gauche, et particulièrement de la gauche dite de gouvernement, est terrible. Et l'absence, par exemple, dans certains programmes ces dernières années, y compris au régional, de thèmes culturels ou de cette imbécilité de dire que la culture est partout, donc elle est transversale, donc c'est pas la peine d'en parler, me paraît quelque chose de terrible dans l'esprit de gauche. Et je trouve que la pensée de gauche bien pensante aujourd'hui est une vraie censure. Enfin, il y a une pensée de gauche qui devient, et moi je suis un homme de gauche fondamentalement, hein, viscéralement, et cette pensée aussi là m'étouffe complètement, quoi. Et la pièce, parce que par exemple, il y a plein de gens qui croient que la pièce est une chose aussi contre le théâtre, l'institution théâtrale, etc. Or le personnage dit bien un moment, rien de génial ne sortirait jamais des institutions théâtrales de l'État français tant qu'elles resteraient en l'État. Voilà, et c'est là-dessus où le texte est politique, quoi, moi je trouve, d'une manière forte. Et je suis d'accord aussi avec Christophe, c'est pas du tout un texte uniquement sur le théâtre, même si ce que ça raconte, c'est que dans cette profession où on entre avec aussi des rêves, enfin moi je suis entré dans cette profession, j'avais 20 ans, d'abord comme acteur, après comme metteur en scène, puis là je reviens comme acteur, etc., mais avec des rêves sur le service public de la culture, sur quelque chose qui m'a donné envie d'y rester, des rencontres avec des auteurs, de l'écriture, etc. C'est ce qui m'a vraiment à un moment fait rêver dans ce milieu-là, et c'est vrai qu'à 40 ans, je me pose la question de savoir mais où on en est aujourd'hui, quand je vois l'absence de rêve, mais parce qu'elle est bafouée en permanence, hein, pas forcément aussi par tous les directeurs, etc., mais c'est une telle chaîne alimentaire où la violence qu'on a à la tête de l'État se répercute, à la tête du ministère, dans les gens du cabinet qui le font pression sur les directeurs, qui font pression sur leur personnel, qui font pression sur les artistes, qui eux-mêmes font pression sur les comédiens, qui eux-mêmes sont dans une précarité totale, dans une espèce d'écosystème alimentaire comme ça, où tout le monde fait pression sur tout le monde, et où finalement ce que ça raconte dans le texte, c'est qu'à partir du moment où on ne met plus l'humain au centre, bah, cette espèce de moment comme ça conduit le personnage à une sorte de naufrage, à une sorte de révolte, qui conduit finalement à une sorte de révolte contre le système, contre l'État, et qui finalement conduit à une forme d'anarchisme. Et d'une certaine manière, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une sorte de cercle vicieux de quelqu'un qui, à partir de petites choses, mais en permanence, devient de plus en plus révolté contre ça, parce qu'il est de plus en plus nié, il a de moins en moins sa place, il existe de moins en moins, et au bout d'un moment, il ne croit plus en rien, même plus au système démocratique. Et il y a quelque chose là-dessus, moi, qui me paraît, je veux dire, pas prophétique, mais je pense qu'on est un petit peu là-dedans, quoi, et que c'est un peu le danger qui nous guette, quoi.
Après avoir rompu tout commerce artistique avec ces figures du théâtre français, après avoir pris note de la faillite de leurs pensées et partant de leur production artistique, j'en suis à courir d'un théâtre à l'autre, poulet sans tête, oui, sans tête ni cervelle, décervelé, prêt à être une nouvelle fois assommé par cette masse des gens de théâtre. Accepter de donner une conférence dans cette entreprise culturelle de l'État français, c'est aller au-devant de cette masse et me faire assommer par elle, réalisais-je. Marie-Jo. Une des figures de cette société théâtrale française m'avait fait la proposition de cette conférence. Comment avait-elle retrouvé ma trace ? Sans doute lors de ma course folle de théâtre en théâtre, lieu dans lequel ces figures ne cessaient de s'épier, de s'observer, de faire des commentaires amers sur les uns et les autres, de chercher à s'aliéner les uns et les autres. On remet les pieds dans un théâtre français après une longue période. On se remet à peine de cette société théâtrale française qui nous a empoisonné l'existence pendant des années, et à peine les pieds posés dans un théâtre français, on a aussitôt affaire à ces figures de la société théâtrale française. On est happé par ces figures, et oui, on tombe dans cette trappe théâtrale française. D'abord, on ne se rend compte de rien. C'est une contamination sournoise. Puis peu à peu, cette société théâtrale française s'impose et nous détruit. Dans un premier temps, elle nous rabaisse par des vexations, tout en nous jetant à la figure ses productions artistiques hideuses. Dans un deuxième temps, elle nous nie en pervertissant notre pensée. Ces gens de théâtre ont enténébré mon esprit pendant des années, enténèbrement dont je me remets à peine. Pour cette raison, je les avais toujours évités lors de mes précédents passages en France. Les entreprises culturelles où ils sévissaient étaient des lieux de perdition pour l'esprit et la beauté. J'ai toujours évité, il va de soi, les théâtres de la capitale, dits privés, lieux de perdition totale pour l'esprit et la beauté, empoissés d'un esprit petit bourgeois français. Cet esprit-là, je le combats depuis toujours, c'est la lutte originelle. Il y a la lutte finale, celle-ci tarde à venir, et au fond, oui, il faut bien s'en rendre compte, au fond, jamais elle ne viendra. Et il y a la lutte originelle qui, du moins, a le mérite d'exister dans de nombreux jeunes esprits français, avant qu'elle ne s'évapore à l'âge adulte, après une décennie à grandir sous la coupe de l'État français, à être éduqué par lui via une entreprise de décervelage total, l'éducation nationale française, et à fréquenter les calamiteuses entreprises culturelles théâtrales, en particulier du territoire français.
Moi, ce que je peux dire, bon, je viens de la fac.
Vincent Francky.
Et ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec Renaud-Marie Leblanc. Donc, ça fait 2 ans que je m'immerge un peu dans ce milieu du théâtre, dans les institutions culturelles. Et effectivement, de mon jeune âge, je fais le constat d'une chose, en tout cas, c'est que dans certaines institutions théâtrales, quand un artiste propose un projet, La première question que pose un directeur culturel, un programmateur, etc., enfin quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, n'est pas forcément une question sur l'art, n'est pas forcément une question sur les projets.
Tu veux dire que la question c'est combien ?
Par exemple. Alors évidemment que c'est important. Évidemment qu'il y a une économie dans l'art, hein. Il ne faut pas non plus être un bisounours qui est persuadé que cette question-là n'existe pas. Mais ce que je remarque, c'est que cette question prend énormément d'importance. Et que finalement, le projet intrinsèque, l'esthétique, etc., n'est pas une question qui obsède ces gens de théâtre. La question, alors c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi la question de l'accessibilité au public. Quel public est visé? Est-ce qu'on peut aller en famille? Est-ce que ce texte peut heurter certaines minorités, etc. Donc pour moi, de l'intérieur, hein, sans faire un grand discours politique, etc., mais je me rends compte aussi d'une sorte de perversion à ce niveau-là. Une sorte de, je vais employer le mot, une sorte de mercantilisation du spectacle.
Sur cette mercantilisation, Renaud-Marie
C'est Edouard Bond qui dit que malgré ce qu'on a voulu faire croire, l'homme a besoin de fiction. L'homme a besoin qu'on lui raconte des histoires parce qu'il a besoin de légendes, il a besoin de mythes. Il a besoin qu'on lui redonne des mythes, qu'on lui réinvente tout le temps une histoire de l'humanité. Et ça, je crois que ça sera toujours vrai. Je pense que ça ne disparaîtra pas. Ce qui disparaîtra, c'est les moyens. Ça, c'est sûr. Les moyens économiques. Et voilà, et on est rentré dans l'ère du divertissement. J'ai rien contre le divertissement, hein, parce que je pense que le théâtre peut aussi être, enfin, tu vois, doit être aussi un divertissement d'une certaine manière, quoi. Mais je pense qu'on est rentré que là-dedans, et qu'après, c'est des questions d'éducation des publics. Moi, je dis que la chose dont on souffre le plus au théâtre, c'est l'échec de l'éducation nationale, d'une certaine manière. Et ce n'est pas les profs qui sont en cause, c'est la manière dont est organisé le savoir, dont sont organisées les études en France, avec des classes trop nombreuses, etc. C'est cet échec-là que nous on mesure.
En octobre, au Théâtre de l'Anche avec conférence, mais à venir bientôt, c'est en décembre, et c'est au Théâtre du Merlan, une seconde pièce de Christophe Pellet, par Renaud-Marie Leblanc et la compagnie Didascalie, c'est Eric von Stroheim. On parlait d'addiction tout à l'heure, et là c'est plutôt une pièce sur le manque, au fond finalement, Christophe, sur le manque de temps, sur le manque d'amour. Stroheim, c'est une pièce en manque ?
Oui, c'est sur le manque d'ailleurs, c'est vrai. Alors là, c'est un texte, déjà où il y a trois personnages, hein, c'est où il y a des dialogues, où il y a des situations diverses et variées, on va dire, bon, même...
Et à varier.
Oh, non, je n'irai pas jusque-là, parce que je revendique ces personnages. Moi, c'est des personnages que je ne juge pas. Bon, ils ont des comportements extrêmes, c'est vrai. Alors là, pour le coup, tout public, non. Je pense d'ailleurs que ça peut poser même des problèmes, j'imagine, pour le théâtre.
Si non. Ça peut poser des problèmes pour le théâtre, c'est parce qu'on y parle de sexualité
Par rapport peut-être à un jeune public, je ne sais pas. Alors là, en même temps, ce n'est pas mon problème. On y parle de sexualité, c'est vrai, beaucoup. Mais surtout, moi, ce n'est pas la sexualité, on y parle surtout de domination. Et c'est surtout une pièce sur le commerce des êtres qui est là, pour le coup, pour moi, est quelque chose d'avarié, là, pour le coup. Mais et comment tout ça pervertit la structure familiale? Comment les rapports dans l'intimité sont pervertis par ce système, bon, on va dire, en gros, capitaliste? Ce qui m'intéressait, c'est de dire que le capitalisme, ce n'est pas simplement une marchandisation des échanges commerciaux avec l'argent, c'est aussi de l'intimité. C'est aussi une manière d'aborder l'intimité, une manière d'aborder la sexualité. Voilà, ça change la structure familiale. Et les enfants qui naissent aussi dans ces structures-là, que vont-ils devenir? Voilà, ça m'intéressait aussi.
Von Stroheim, Erich von Stroheim, en l'occurrence, le monocle le plus célèbre du cinéma d'avant-guerre. Ah, t'es poil-tieux. Quel rapport, au fond, avec nos mœurs contemporaines, ce bon Erich von Stroheim, ménage à trois et industrie pornographique, c'était pas vraiment de son temps.
Ah ben si, il a fait des films pornographiques, malheureusement, on les a coupés, enfin, pornographiques érotiques, je veux dire, mais qui ont été massacrés par les producteurs. Non, c'est quelqu'un complètement moderne, parce qu'il s'est inventé un personnage. Et c'est un personnage très libertaire aussi, ça c'est quelque chose qui m'importe. Malgré tout, cette notion de, pas de liberté, de libertaire. Bon, voilà, un personnage profondément moderne pour moi, oui.
Erich von Stroheim, la pièce, cette fois-ci, une pièce aussi sur le trucage, sur la représentation. Alors, le théâtre, c'est un instant de vérité ou c'est l'art du faux?
Eh bien, pour moi, c'est un instant de vérité quand même. C'est un lieu où, justement, par le simulacre, le cérémonial et le faux, on atteint la vérité, mais une vérité qui ne soit pas simplement crue, avec une forme d'élévation et de beauté. Voilà. Alors donc je veux la vérité, mais avec le passage du comédien, du corps du comédien, des lumières, de la musique. C'est pour moi, c'est ça, le théâtre. Sinon, bon, ça ne m'intéresserait pas, quoi. La vérité, on peut la dire, comme on le fait à ce micro, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Par contre, quand les gens vont au théâtre, c'est peut-être ce qu'on dit là, mais avec aussi, malgré tout, une forme de beauté et d'élévation.
Renaud Marie, sur cette idée?
Bah oui, non, moi je suis d'accord, j'irais même plus loin, je dirais que c'est même ça rejoint ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est la notion d'art qui n'est pas mélangée avec la culture, qui n'a rien à voir. Aujourd'hui on a le mot culture et nos politiques ont le mot culture à la bouche tout le temps, on ne parle plus jamais d'art, on a oublié de le dire tout à l'heure. Nous on fait pas de la culture, moi je fais pas de la culture, je pense que Christophe non plus, enfin forcément on fait partie de la culture d'une certaine manière, mais je fais pas de la culture, je sais pas ce que c'est la culture, quoi. Par contre... L'art, c'est quelque chose qui est posé là, si tu veux, c'est comme un pavé jeté dans la mare et qui fait des ronds, et ces cercles-là produisent quelque chose dans leur sillage et peuvent toucher ou éclabousser par leur beauté, par leur mystère, etc., des gens du public, tout simplement. Enfin, moi, je sais que je suis venu là-dedans parce que j'ai été éclaboussé par des pavés jetés devant moi, comme ça, si tu veux. Enfin, et c'est ça qui m'a donné envie, et je pense aussi, et c'est là où ça rejoint... Peut-être ce qu'il disait Christophe, c'est que dans la notion d'art, pour moi, il y a toujours une notion d'écriture. Que ça soit dans la mise en scène, que ça soit dans le jeu de l'acteur, que ce soit évidemment dans un texte écrit, que ça soit dans la musique. La notion d'écriture, c'est toujours une mise en forme de quelque chose. Et donc, c'est une mise en forme du réel. Donc, je pense que oui, c'est un art. Donc, tout est faux. C'était très étrange, parce que justement, quand on a fait Froid, il y a eu, on a fait, donc était l'histoire en fait de trois jeunes qui étaient néo-nazis, qui agressaient un quatrième, voilà, c'était une sorte, d'après un fait réel que Lars Norén avait écrit ça, et puis voilà, il tuait le dernier, tout simplement parce qu'il était étranger, etc. Il y avait tout le discours d'extrême droite qui était déballé sur le plateau, etc. Et on l'a joué à Port-de-Bouc, on l'a joué à Miramas, on l'a joué à Cavaillon, à chaque fois sorti avec du jeune public, à chaque fois très préparé, enfin du jeune public des lycéens, mais voilà, très préparé, à chaque fois avec 2 heures de rencontre après. Et lors d'une rencontre à Cavaillon, je me rappellerai toujours, et ça c'était incroyable, parce que ça me restera toujours de savoir pourquoi je fais ça. Ce qui a été très violent, c'est que les jeunes ressortaient en disant « Mais cette violence qu'on voit, l'agression qu'il y a sur le plateau, mais c'est notre quotidien, monsieur. Il y a eu cette première chose qui m'a violenté. entendre ça. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, moi je sais pas quoi en penser, qui d'abord était un peu contre, etc., un jeune qui disait gna 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 gna, et qui disait oui mais c'est faux, etc., justement, qui parlait de la représentation, etc., et qui à un moment a lâché quelque chose de très très beau, enfin je trouve qui résume bien. Il a dit, mais en fin de compte c'est faux, et en même temps là je le vois, dans la vie je le vois pas. Mais du coup, le fait de voir sur le plateau quelque chose, même de le quotidien, mais de le nommer, de le pointer, si tu veux, crée effectivement, c'est un pavé jeté dans une mare et fait ses cercles dans ses eaux dormantes, quoi. Et
par rapport à vos...
Christophe Pellet.
Je t'interromps parce que j'ai du mal à... par rapport à voir, c'est un texte qui parle de pornographie. La pornographie, il y en a partout. Les enfants, ils vont sur Internet, ils voient de la pornographie. On ne voit plus la nudité, on ne voit plus la pornographie. Peut-être Éric von Stroheim, en tant que spectacle de théâtre, dans l'écriture en tout cas, et dans la forme des différentes mises en scène, montrera peut-être ça, ce que c'est. Peut-être là, les jeunes, le jeune dira, ah oui, moi la pornographie, maintenant je vois ce que c'est, l'érotisme ou la sexualité ou la sensualité, parce que je pense qu'il y en a aussi dans Éric von Stroheim. Il la verra sur le théâtre, alors qu'on ne la verra plus sur Internet ou à la télévision, ou maintenant sur Internet, parce que la télévision, maintenant, c'est Internet qui devient le lieu du réel, on va dire. Hein. Et Éric von Stroheim parle de ça. Voilà.
Deux pavés dans la mare pour donner à voir, c'est la conférence au Théâtre de Lanche jusqu'au 6 novembre 2010. Et puis Éric von Stroheim au Merlan, scène nationale du 10 au 17 décembre. Et à lire aussi un doux reniement, La conférence et le garçon avec des cheveux dans les yeux, c'est de Christophe Pellet et c'est édité chez L'Arche.
Et je peux dire une dernière chose, j'ai encore le temps. Non, moi ce que je trouve, parce que ça Christophe il pourra pas le dire, mais ce que je découvre en travaillant sur ces deux textes, en tout cas de lui, c'est qu'il y a une vraie tentative de tragédie contemporaine dans son écriture. Il y a quelque chose qui capte de manière extrêmement à droite, et plus qu'à droite enfin, d'un mal-être du monde dans lequel on est, d'une difficulté à être dans son corps et d'être présent, d'être là. La question de la présence, la question de l'incarnation, aussi bien dans la conférence que dans Éric von Stroheim, je pense que Christophe pose cette question-là, à travers la pornographie ou à travers le mal-être de ce personnage qui ne trouve pas sa place dans la société, pour Thomas Blanc-Guernon. Donc il pose cette question cruellement de l'incarnation au sens presque littéral, c'est-à-dire la chair, quoi. Comment on est dans notre chair et comment on arrive à être là, et est-ce qu'on a encore une place pour elle aujourd'hui. Et d'une certaine manière, je trouve que ces textes sont politiques, je dirais, en biais, parce qu'avant tout, ils posent cette question intime de ça. Et cette question, évidemment, elle est extrêmement violentée par la société capitaliste telle qu'elle est organisée, dans laquelle on est. Et du coup, ça hisse ces histoires qui peuvent sembler, au départ, des histoires intimes anecdotiques, à des valeurs, je dirais... autre comme la tragédie, quoi, des figures qui deviennent presque cathartiques, quoi. Moi, c'est ça que je vois dans son écriture.
Merci Renaud-Marie Leblanc, Christophe Pellet, Vincent Franqui, toute la programmation du Théâtre de Lanche, www.théâtredelanche.info, toute la programmation du Merlan, www.merlan.org.